Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et mémoire. Pour cette nouvelle saison, Radio Grand Ciel confie les rênes de votre magazine mensuel à la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Ainsi, grâce aux connaissances des archéologues, vous pourrez avoir un regard nouveau sur l'histoire de la ville de Chartres. Pour ce deuxième rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Joly, directeur du service archéologie, afin de découvrir ensemble l'histoire antique du site de l'actuel cinéma Les Enfants du Paradis, situé boulevard Chasles. Bonjour Dominique. En introduction, pouvez-vous nous rappeler l'originalité de cette fouille dite du cinéma ?
Bonjour. Cette fouille est doublement originale. C'est la première fouille que le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, m'a confiée lorsque le service municipal a été créé en 2003. Et d'autre part, c'est la fouille qui a duré le plus longtemps sur la période qui vient de s'écouler de 10 ans. En 2003, elle a nécessité le recrutement de plus de 70 archéologues, dont une grande partie fait encore partie du service. Et cette fouille qui a duré sur 18 mois a permis de fouiller intégralement plus de 4 700 m² du sous-sol chartrain, sur 2,50 m d'épaisseur, et de dévoiler tout un quartier de la ville gallo-romaine.
Donc c'est une fouille entre guillemets emblématique. On va donc l'évoquer aujourd'hui, surtout évoquer l'évolution de ce quartier au début de notre ère, donc qui a débuté il y a 2000 ans. Donc on va d'abord voir les premières occupations gauloises, la naissance du quartier gallo-romain au 1er siècle et enfin l'évolution de ce quartier les siècles suivants. Alors avant toute chose, Dominique, pouvez-vous nous décrire ce qu'était Chartres au 1er siècle avant Jésus-Christ ?
Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Chartres était une installation sur une hauteur qu'on peut encore mesurer aujourd'hui autour de la cathédrale. C'est ce qu'on appelle pour cette époque-là un site d'éperon qui dominait la vallée de l'Eure et la vallée de son confluent, le Couesnon. Et cette ville s'appelait Autricone avec un K, mais c'est le même nom qui deviendra Autricum avec un C-U romanisé par la suite.
D'accord. Et qu'avez-vous ? Vous avez découvert donc sur le site qui était occupé depuis 60 avant Jésus-Christ. Qu'y avez-vous exactement découvert ?
Sur le site du cinéma avant Jésus-Christ, cet espace s'est dévolu à la nécropole, à une nécropole, c'est-à-dire le lieu où l'on enterre les morts qui par définition se trouve en dehors de la ville.
Et pour les auditeurs, comment se présente une nécropole ?
Alors cette nécropole se présentait comme un vaste espace légèrement en pente vers le sud, organisé sous la forme d'enclos, vraisemblablement des piquets qui matérialisaient des espaces carrés dans lesquels on déposait les cendres des morts, et elle était longée par une esplanade formée de cailloutis au nord.
Alors pouvez-vous nous rappeler quelles étaient les pratiques funéraires à cette époque ?
Cette époque, c'était la crémation, c'est-à-dire le corps est brûlé sur un bûcher constitué, bien sûr, de bois. Le bûcher peut être resté sur place et on peut enfouir les ossements brûlés à cet endroit. Mais le plus souvent, on récolte dans les cendres et dans les charbons de bois du bûcher les ossements des morts et on les dépose dans un autre lieu ou dans un réceptacle qu'on va lui-même enterrer dans un autre lieu. Donc, ce qu'on appelle une urne cinéraire, où quelquefois on les récolte dans un sac, on va les reverser à d'autres endroits.
D'accord. Et quels étaient les objets que vous avez pu retrouver ? Est-ce que les Gaulois faisaient des offrandes à leurs défunts ?
Alors, les offrandes, le terme n'est pas toujours bien interprété. C'est une recherche qui est en cours. On dépose avec le mort les objets qui l'accompagnent de son vivant et qui peuvent servir à tenir ses vêtements, les fibules ou des éléments de chaussures. Il a au pied ses chaussures qui sont dotées de clous, donc on retrouve les clous de chaussures. Mais on peut aussi lui apporter, effectivement, une assiette avec un plat de porc ou des objets de la vie quotidienne qu'on dépose à côté de lui. Les gestes sont très variés. Donc quand les objets sont brûlés avec le défunt, souvent il n'en reste rien, ou alors des objets consumés, tordus, des objets métalliques altérés par le feu.
Et vous avez du coup retrouvé aussi donc des fibules et quelques objets en bronze. Ces fibules, on peut les voir dans l'exposition Les objets mystérieux de votre ville, je crois.
Oui, on peut voir les fibules et en particulier un ensemble de vases qui contenaient les ossements dans lesquels on a déposé des fibules et puis une coupelle qui est retournée en forme de couvercle qui est déposée au-dessus. Donc on a restauré les fibules, restauré les vases et on peut montrer la disposition de ces réceptacles funéraires et les objets qui les accompagnaient.
Et est-ce qu'il y a d'autres traces de nécropoles gauloise connue à ce jour à Chartres.
Alors jusqu'à 2013, on n'en avait pas d'autres à part un vase cinéraire isolé qui avait été trouvé en 2004, place des Épars. Mais depuis 2013, à l'angle des rues Nicole et Casanova, on a découvert une autre nécropole gauloise de la même époque que celle du cinéma, mais qui est moins bien conservée, ou conservée plutôt sur une petite surface, plus petite surface que celle du cinéma.
D'accord. Donc, on a vu là donc l'aspect funéraire de ce site, et on va bientôt aborder la naissance du quartier gallo-romain. Mais avant cela, on fait une petite pause musicale.
Jamais faire semblant d'avoir aimé la guerre. Quand on joue au Monopoly, comme joue un menteur au poker, il faut, ça ne fait pas un pli, faire ce qu'on a à faire. Faire ce qu'on a à faire de sa vie de folie. Rêver comme un rêve. Serre et colis. Ne pas lutter contre le temps et marquer le pas dans la poussière. Savoir avec le cœur battant rester juste et sévère. Quand on suppose l'embolie à force de douceur mortifère, ne pas attendre une embellie. S'envoler fier, juste s'envoler fier, dès que le vent mollit, comme un jour s'envoler, dans les serres et colis, faire ce qu'on a fait, de sa vie de folie, rêver comme un rêve. Faire et colis. Quand le ciel au destin s'allie, se retrouve et tout près de Saint-Pierre, prendre le chemin.
Je sais qu'on peut aller jusqu'à... Bien, retour dans le studio de votre magazine Histoire et Mémoire. Nous sommes avec Dominique Joly, directeur du service archéologie, et nous évoquons ensemble le quartier gallo-romain situé sous le cinéma Les Enfants du Paradis. Nous évoquions donc la première période de ce site qui était une nécropole gauloise. Que se passe-t-il concrètement à partir de 30 avant Jésus-Christ, Dominique ?
Alors, aux environs de 30 avant Jésus-Christ, la nécropole est détruite. Elle est détruite volontairement par ceux qui aménagent la ville romaine. C'est ce qu'on appelle le processus de romanisation, qui se met en place après, bien sûr, la conquête césarienne des Gaules, qui a mis sous la coupe de l'Empire romain toutes les provinces gauloises de Gaule narbonnaise et de Gaule lyonnaise, et même de Gaule belgique. Auguste envoie dans les provinces des arpenteurs qui ont mission de développer des schémas urbains, tous identiques, bien sûr adaptés au relief des terrains, et donc de détruire, d'éradiquer les traces des aménagements antérieurs. Sur cette nécropole, donc au cinéma, on arrase les fossés, les enclos, on les rebouche et il n'y a plus de traces de cette occupation funéraire du site.
Alors que devient exactement le quartier à cette époque ?
Alors il est transformé en surface par un apport de terre qui servent à combler les fossés, à recouvrir les endroits où étaient déposées les cendres et les urnes des morts. Et puis il est marqué par le travail des arpenteurs, comme je l'indiquais. Donc c'est des topographes qui ont des outils rudimentaires mais précis, qui donnent des axes et des perpendiculaires, et qui tracent les axes des rues qui vont structurer le quartier pendant les années, les décennies qui vont suivre. C'est vraiment l'installation d'une ville sur un quartier qui n'était pas urbanisé auparavant.
Et justement, quel est le travail des arpenteurs ? Cette urbanisation se fait par un piquetage, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, comme aujourd'hui, le piquetage, c'est le planter dans le sol, à l'espace régulier, des piquets ou des poteaux de taille moyenne pour définir des axes de rue, des largeurs de rue, et donc c'est fait avec les instruments de ce qu'on appelle la groma, qui donne des axes perpendiculaires qui sont marqués au sol par ces piquets et quelquefois des fossés. Les fossés sont déterminent les voies de circulation, les axes de circulation qui vont quadriller la ville romaine.
Donc on a un plan entre guillemets quadrillé de ce quartier avec des îlots et des parcelles. Comment sont aménagées les parcelles ?
Alors, au début, on a simplement le piquetage des voies, le piquetage des axes, et les parcelles sont sans doute délimitées par des intervalles réguliers d'environ 12 à 13 mètres de large, mais elles ne sont pas bâties tout de suite, elles ne sont pas loties tout de suite, en tout cas pas sur le site du cinéma, pas celles qui sont les plus proches du nord du site, donc de l'actuel boulevard Charles. À l'intérieur de ces piquetages, vraisemblablement, se trouvent des enclos. Et dans le sud du site, du côté de la rue de Châteaudun, on a des traces de petites installations de bâtiments en bois. Et on pense que, d'après ce qu'on a trouvé comme type de vestige, on avait peut-être des enclos pour du bétail. L'urbanisme se mélange avec le côté rural de fonctionnel de la ville. Mais ça se fait progressivement.
Combien de temps il faut à peu près pour aménager ce quartier ? On était en moins 30. Il faut...
Alors, dans la mesure où on est capable de dater à un an près, ce qui est rarement possible, on a des fourchettes de plus ou moins 10 ans, on va dire, dans ces époques-là, et encore, c'est très bien. On pense que dans la partie sud du terrain, du côté de la rue de Châteaudun, il y a un intervalle de temps qui dure une dizaine d'années, au bout duquel toutes les parcelles sont occupées. Occupées par un bâti, par des habitats. Des habitats, et puis on reverra aussi ce qu'il y a avec les habitats. Mais c'est une hypothèse. Ça sera peut-être 12 ans, ça sera peut-être 8 ans. Ce qui compte, c'est le processus. C'est qu'après le piquetage des voies, tout n'est pas bâti tout de suite, mais le piquetage marque l'arrêt de la nécropole, l'installation, la consacration de cet espace à la ville, et petit à petit, les habitants vont en prendre possession.
Et vous avez aussi découvert des trottoirs, c'est ça ? Comment était aménagé Alors, la voirie ?
En relation avec le piquetage des bords de voie, les premiers axes, donc le piquetage destiné à délimiter les îlots et les parcelles, mais aussi par soustraction, les axes de circulation. Au début, les axes de circulation sont simplement des chemins creux. On a enlevé la terre végétale de surface parce qu'elle est impropre à la circulation. On a gratté jusqu'au terrain un peu plus solide en dessous, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le terrain géologique. Et puis, on a circulé sur cet espace-là, mais c'est devenu boueux, donc on a rapporté du caillouis. Donc, c'est quelque chose d'assez meuble. On n'a pas encore mis en place de fossés d'écoulement des eaux. C'est ce qui intervient dans un second temps, lorsque les maisons s'installe en bordure de voie et on exprime le besoin d'avoir des espaces, je dirais, pour utiliser une
plus
formule
propre,
actuelle, de propreté à la sortie, devant la porte des maisons. Donc chacun aménage plus ou moins moins son trottoir devant sa maison, devant son bâti, et il en découle un muret qui peut être continu, mais construit l'un à la suite de l'autre par des propriétaires riverains, et qui délimite aussi un fossé qui recueille les eaux de pluie. Et par la suite, dans un deuxième temps, on va construire des voies plus solides, on va recreuser le terrain, on va rapporter des cailloux, des plus gros cailloux, puis des cailloux moyens, puis des petits cailloux, on va structurer une chaussée, un axe de circulation qui va durer, alors là, pendant plusieurs siècles.
Donc on est en moins 40 à peu près de notre ère. La ville gallo-romaine donc s'étend et se construit. Nous nous retrouvons après une seconde pause musicale pour évoquer donc l'évolution de ce quartier gallo-romain.
Je traîne ma carcasse lourde, toujours plus lourde en chemin. La bouche sèche dans la gourde, la soif du matin, derrière les barreaux de ma libido. J'entends siffler le train pour Anthony. Je reste planté près des gargouilles, la mare au canard. Le monde bouge comme des grenouilles et les cuisses sont tartare derrière les barreaux de ma libido. J'entends siffler le train pour Anthony, c'est la gueule vide. Lourde, toujours plus lourde en chemin. La bouche sèche dans la gourde, la soif du matin, derrière les barreaux de ma libido.
Retour dans votre émission Histoire et Mémoire. Nous attaquons la troisième partie de ce rendez-vous consacré au site du cinéma Les Enfants du Paradis. Je suis en présence de Dominique Joly, directeur du service archéologie, et nous allons évoquer donc l'évolution de ce tout jeune quartier gallo-romain. Comment se transforme ce quartier au début de notre ère ?
À la suite des installations provisoires et des piquetages et des installations des voies, on peut imaginer, je dis bien on peut imaginer, qu'il y avait à l'issue de cette évolution une trentaine de maisons modestes qui sont entretenues, qui sont agrandies, qui sont rebâties, construites en bois, avec des solins en pierre et des élévations en torchis. Et en retrait de la rue, on a des cours, des dépotoirs, des celliers, des espaces de travail dans lesquels évoluent les habitants de ce quartier.
Alors, espace de travail, ça attire mon attention. Ça signifie quoi exactement ? Est-ce qu'il y avait des ateliers, des traces d'activités artisanales sur le site ?
Alors, effectivement, activité artisanale, ça veut dire que, c'était pas un quartier dans lequel on venait travailler le matin et on repartait chez soi le soir. Il faut imaginer que la maison, c'est aussi l'espace de travail. On habite et on travaille au même endroit. Et on a trouvé, effectivement, une grande concentration d'activités très différentes. Des activités de travail de la viande. On a des fours à fumer la viande. On a des meules à grains pour moudre les céréales. On a aussi des activités de travail du métal. On a un four de bronzier. On a des ratés de fabrication en os. On a des des rejets alimentaires en grande quantité qui suggèrent la présence d'un charcutier, charcutier entre guillemets, mais qui fabriquait par exemple du pâté de tête de mouton. On a aussi la récupération de l'os pour fabriquer du collagène. Donc, on a des pesons d'un métier à tisser, d'un tisserand qui travaillait sur place. On a un commerçant qui vendait de la nourriture à ses passants sur un comptoir qui s'apparente à ce qu'on voit à Pompéi. On pourrait appeler ça une restauration rapide sur le bord de la route. Donc, on a une énorme profusion, diversité d'activités artisanales, qu'on appelle artisanales, mais qui sont les activités de la vie quotidienne d'une ville à l'époque romaine.
D'accord, donc l'activité artisanale et habitat ne sont pas séparés comme on l'a chez nous, à notre époque maintenant, mais est-ce qu'il y avait d'autres secteurs d'activité artisanale repérés dans la ville gallo-romaine?
Ah bien sûr, il y a partout des activités artisanales en cœur de ville. Ici, le quartier de la cathédrale est peut-être différent des autres, peut-être parce qu'il faudrait avoir travaillé à l'échelle de la ville pour pouvoir différencier ces quartiers les uns des autres. On sait que sur les bords de la rivière, sur la rive droite de l'Eure, dans le quartier des Fidieux et dans le quartier du Faubourg-la-Grappe, on a des ateliers de potiers, par exemple. Sur le cinéma, on n'a pas de potiers. La poterie requiert des espaces plus grands, requiert des fours, requiert du stockage du bois. Ici, on n'a pas de potiers. Mais on a, dans d'autres secteurs de la ville, les mêmes activités de cuisson de la viande, de travail de l'os, de rejet alimentaire qu'on a sur le secteur du cinéma. Ces activités ne sont pas toutes spécifiques de ce quartier-là. On peut retrouver ces activités dans d'autres secteurs de la ville.
D'accord. Et juste, je voulais savoir, nous, on a un cœur de ville bien identifié avec un hôtel de ville, Place des Halles. Quel était le cœur de ville antique?
Alors, le cœur de la ville antique, traditionnellement, il est organisé autour du forum. Le forum, c'est la place publique, l'ancienne agora des Grecs. On suppose qu'il se trouve au nord de la cathédrale, dans le secteur des anciennes archives départementales, rue Sainte-Thérèse, rue Muret. Mais il est peu connu par l'archéologie parce que c'est un secteur qui est densément occupé à l'heure actuelle par des bâtiments qui n'ont pas été démolis et reconstruits depuis longtemps. Et on connaît très très mal le cœur monumental, puisque le cœur de la ville antique est monumentalisé à Chartres. En revanche, on connaît bien mieux l'habitat, l'artisanat qui sont répartis sur quasiment tout l'espace en dehors de ce cœur antique monumentalisé.
Donc là, le site du cinéma, entre guillemets, est un peu à la marge du cœur de la cité.
Alors en plus, il est à la marge, puisqu'il est effectivement sur le rebord du coteau qui était déjà à la marge de la ville gauloise, puisque c'était la nécropole. Et la nécropole, ce n'était pas l'espace urbain de la ville gauloise, puisque la nécropole, comme son nom l'indique, c'est la ville des morts, nécropolis, ce n'est pas la ville des vivants. Mais cette nécropole a été remplacée par un quartier d'habitation. Et la situation topographique sur le rebord du coteau fait qu'il est à la marge. Mais le fait qu'il soit à la marge ne change rien au fait qu'il est dans la ville quand même.
D'accord. Parce que la ville... Quelle était à peu près la proportion de la ville gallo-romaine?
La ville gallo-romaine est trois fois plus grande que la ville médiévale d'aujourd'hui. Elle va du secteur des Fidieux au nord, au Faubourg-la-Grappe au sud, et puis du site du lycée Fulbert à l'est, jusqu'à l'ancien hôtel Dieu, rue Monoury, à l'ouest. Donc c'est 240 hectares, trois fois plus que la ville enclose médiévale qu'on connaît, définie par les remparts aujourd'hui.
D'accord. Donc on a bien identifié donc, cette ville gallo-romaine avec un quartier très structuré, mais aussi des modes de vie un peu différents. On sait que les Romains accordaient quand même une importance à leur toilette et je crois que vous avez fait une découverte assez originale sur ce site.
Alors c'est vrai que dans ce quartier-là, on a dans un deuxième temps, après l'évolution du quartier, une transformation de plusieurs îlots qui sont, on peut le supposer, achetés par un même propriétaire qui a grandi, qui a plus d'argent, qui a grandi ses parcelles initiales et qui se construit sur un plan en L, un balnéaire, c'est-à-dire une salle de bain comme les connaissaient les Romains, avec une pièce chaude, une pièce froide et sans doute une baignoire et un vestiaire et puis donc tout le système d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux. Et on a ce qu'on appelle une domus, donc c'est pas la maison modeste avec une ou deux pièces, c'est la maison à la romaine avec une entrée, avec un atrium, avec peut-être un péristyle, même si on n'en a pas trouvé la trace. Et puis surtout, c'est ce secteur de balnéaire qui était construit en dur, en maçonnerie, et qui est resté conservé jusqu'à nos jours, en partie.
Et je crois que vous avez aussi découvert des objets en lien un peu avec cette vie quotidienne et les soins du corps.
Ah oui, bien sûr. Là, on a des petits objets très particuliers, en particulier deux boucles d'oreilles en or qui ont dû être perdues dans le bain et qu'on a retrouvées dans la canalisation d'évacuation des eaux de vidange de la baignoire et qu'on recouvertes de concrétions ferreuses. On ne voyait pas que c'était des boucles d'oreilles en or et c'est le nettoyage qui a mis en évidence ces objets. On a aussi un petit pot en verre dans lequel on mettait des onguents. On a aussi des ligulas, ces petites spatules en os qui servent à faire la toilette. Donc on a toute une panoplie, des aiguilles aussi pour tenir les cheveux, faire les chignons. Donc des objets liés à la parure féminine des habitants de cette domus et qui prenaient des bains dans le balnéaire de la maison.
Donc malheureusement, entre guillemets, ce quartier, nous n'en avons plus trace, il n'a pas perduré. Quelle était l'évolution après les siècles suivants?
Alors, comme dans toute la ville d'Autricum et en général dans tout l'Empire romain, vers le milieu du IIIe siècle, c'est la chute de l'Empire romain. L'administration romaine s'effondre et les villes connaissent un exode. Les populations quittent les villes. Il y a souvent des incendies, il y a souvent des destructions par le feu de quartiers entiers. À Chartres, il y en a plusieurs. Une partie du secteur du cinéma est touchée par le quartier et il y a une rétraction urbaine très très forte autour du centre, du noyau de la ville qui tourne évidemment au centre du forum, mais peut-être à d'autres endroits aussi. Et donc ce secteur du cinéma disparaît, n'est plus utilisé à partir du milieu du IIIe siècle, même si les voies continuent à être utilisées. On continue à circuler sur les axes de circulation pour se rendre au cœur urbain, puisque la ville existe toujours, mais en superficie beaucoup plus réduite, et là, de taille plus petite que la ville médiévale. On ne connaît pas exactement la répartition urbaine en superficie de la ville du Bas-Empire, qu'on appelle le Bas-Empire, à partir de la fin du IIIe siècle, mais c'est plus petit. Autour de la rue nord-sud, enfin nord-est-sud-ouest du cinéma, deux tombes sont installées de part et d'autre au 5e siècle, donc qui montrent que là on revient, mais c'est par hasard, à un quartier funéraire. Enfin, c'est pas un quartier funéraire, on inhume à nouveau, et là ce ne sont pas des crémations mais des inhumations, deux personnes le long de la voie au 5e siècle. Donc ça confirme ce qu'on savait déjà, que le quartier n'est plus utilisé par ses habitants, que la voie circule et qu'elle est respectée, mais on n'est plus dans la ville, puisqu'on a l'autorisation, on se donne l'autorisation d'y déposer des morts. Même si ce quartier ne peut pas être baptisé nécropole, c'est un endroit où on n'est plus dans la ville au 5e siècle.
Dominique Julie, merci de nous avoir éclairé sur l'histoire antique du cinéma. Nous allons donc, nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous et ce sont sur ces mots que nous allons conclure l'émission. Vous pouvez découvrir certains des objets que nous avons évoqués lors de visites de l'exposition « Les objets mystérieux de votre ville ». Ces visites sont organisées chaque premier mercredi du mois à partir de novembre à la direction de l'archéologie. Ou sinon, vous pouvez tout simplement consulter le catalogue sur le site internet archéologie.chartres.fr. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau rendez-vous d'Histoire et Mémoire. Je recevrai Pascal Gibu pour évoquer les découvertes réalisées lors de la fouille archéologique sous la médiathèque L'Apostrophe. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Grand Ciel et découvrir d'autres actualités archéologiques sur le site archéologie.chartres.fr. Merci à tous.
On le desperado, un ange est arrivé sur un rive de rock'n'roll. Fais mouche tous les coups, balaye son regard. Belle et imprévisible, elle danse sur les volutes. Se déhancher ce cabre, se rendre accessible à la guiche à le chahut. Les plus éblouis, les plus demandeurs, bouches des ébahis. Le diable est de sortie, déguisé comme il se voit. Tous les hommes aux abris et les chiens aux abois. S'échapper, le compte à bout à zéro. Et il a comme un gun sous la tempe braquée et danse son dernier tango. Avec un ange habitué à mettre à mort sa victime consommée. Le diable est de sortie, déguisé comme il se voit. Tous les hommes aux abris et les chiens aux abois. We'll be right back.
phare allumé sur la tête d'une auréole. Pour les desperados, le danger est arrivé sur un air de rock'n'roll. Mais mon château, les cons, balayent son regard sur le dur, les doux.